9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Et si on commençait par quelques notes de musique, je suis sûr que ceci vous dit quelque chose. Vous entendez ces harmonies, que vous percevez ce rythme bientôt dansant et un jour même tournoyant, vous vous dites que la fin de l'année approche. Sur fond de sapins illuminés, de neige et de Glühwein, de mandarines, de Mozartkugeln et du concert du Nouvel An, nos fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre ne seraient sans doute pas les mêmes sans la famille Strauss en général et sans Johann Fiss en particulier. C'est son père qui avait fondé la dynastie au début du 19e siècle avec un orchestre de danse qui peu à peu était devenu son propre orchestre. Il avait 200 musiciens sous sa baguette, le père Strauss, qu'on surnommait le roi de la valse, et qui à 44 ans était devenu directeur des bals de la cour, s'il vous plaît, à Schönbrunn, mais surtout à la Hofburg. Son fils Johann Fiss, est né le 25 octobre 1825, et très vite il a montré qu'il était un digne fils. Il avait lui aussi cette musique dans la peau, il avait cette valse dans les veines. Ce sera également le cas de ses deux frères, Joseph et Edward. Il va entreprendre secrètement des leçons auprès du premier violon de l'orchestre de son père, et lui qui rêve pour son fils d'une carrière de banquier, le père Strauss, eh bien, il va l'inscrire dans une des meilleures écoles secondaires de Vienne, sauf que, alors le jeune garçon va y passer 4 années, mais soudain, sa vie change quand son père quitte le domicile conjugal. Le jeune homme s'enquiert aussitôt de moyens de subvenir aux besoins de la famille, et il va reprendre l'étude du violon avec le maître de ballet de l'opéra. Il va prendre des cours de théorie en 44, vous voyez qu'il est tout jeune, il a 19 ans. Il obtient une licence qui l'autorise, je cite, à jouer de la musique de danse, des morceaux choisis d'opéra et des pièces de concert selon la demande. Ah, on est en pleine époque Biedermeier, à Vienne, on s'amuse, la musique est bien plus qu'un plaisir, c'est une nécessité, elle permet d'oublier les années de guerre et de répression. Johann Strauss, fils, va fonder son propre orchestre avec 24 musiciens et il va vouloir se produire à Vienne où son père a eu tellement de succès. Johann Père, pourtant, avait interdit à la plupart des propriétaires de salles de concert de produire de jeunes orchestres. Il voulait l'exclusivité de tout. C'est une espèce de tyran de la musique, si vous voulez. Eh bien, le fils va parvenir à le faire fléchir. Il faut dire que la mère s'en est mêlée. Il va obtenir, Johann Fiss, de se produire dans un établissement très en vogue, dans l'élégant faubourg de Hietzing. L'établissement en question, c'est le casino Dommeyer. Et très vite, il va obtenir le succès. Qu'est-ce que vous voulez? Les Strauss ont ça dans les veines. Et du jour au lendemain, Johann Fiss devient le seul rival sérieux de son père. Ce qui ne va pas manquer de tendre un peu les rapports entre le père et le fils. Et ça va durer des années. Johann, soucieux d'accroître sa popularité naissante, emmène son orchestre en tournée aux quatre coins de l'empire des Habsbourg. Et il est déjà en train de se faire non seulement un prénom, mais quasiment une gloire.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et puis patatras, c'est la révolution de 48. Il y avait déjà un conflit interne à la famille, mais maintenant ça va devenir un conflit politique en quelque sorte, parce que ni Johann Strauss père, ni Johann Strauss fils n'affichent de ferme conviction politique. Le plus âgé accepte bien sûr un ordre établi que le plus jeune a tendance à contester, mais il n'empêche que cette révolution et tous les troubles politiques qu'il a accompagne ce printemps des peuples, comme on a appelé la révolution de 48, va avoir des conséquences. Strauss-Père écrit une œuvre au succès inoxydable qui s'appelle La Marche de Radetzky. Alors là, c'est la marche la plus conservatrice qu'on puisse imaginer, hein, puisqu'elle célèbre l'homme de la répression de 48. Il va composer successivement sa marche de la, cette marche de Radetzky. Il va devenir en quelque sorte le symbole de la Vienne conservatrice, totalement fidèle au régime, alors que le fils, lui, va composer sa marche de la révolution, sa marche des étudiants. Vous voyez qu'on est quand même dans un autre esprit. Il va être convoqué par la police, même pour avoir donné, au lendemain du couronnement François-Joseph, il a donné la Marseillaise en public, vous imaginez. Très peu de temps après, son père vient à mourir. On est là en septembre 49. Il meurt des suites d'une tournée qui a peut-être été un peu trop longue, un peu trop fatigante. Et son fils un peu rebelle, son fils aux idées politiquement plus avancées, se trouve du jour au lendemain bien démuni. Le voilà qui rassemble sous sa direction les musiciens de son père et qui, avec ses deux orchestres, va entamer cette ascension incroyable vers la célébrité internationale. Dorénavant, il est seul à se produire sur la scène viennoise. Il prend l'habitude de courir son violon sous le bras d'une représentation à l'autre, des représentations qui sont données en même temps par les deux orchestres, vous vous imaginez. Il dirige quelques morceaux ici et là pour honorer l'annonce faite sur les affiches. Aujourd'hui, Strauss jouera ici. En fait, il vient diriger deux morceaux, hein, puis on le remplace pour le reste. Car le public viennois ne se lasse pas de ces mélodies sensuelles que Johann Strauss dynamise par des rythmes toujours plus prenants. On veut s'étourdir avec Strauss, on veut se laisser aller dans les bras d'un danseur serré contre soi, une danseuse, bien sûr, chacun sait, bien plus ou moins confusément. On est dans la ville où va naître Freud, que cette danse est un prétexte à se rapprocher au plus près. Mais peu importe, l'ivresse du rythme gagne, déborde, emporte toute réticence, dit Alain Duhaut dans Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse. Alain avait publié ce livre chez Actes Sud. La célébrité de Strauss, ajoute-t-il, est devenue telle que la fameuse Sperle, cette salle de bal où il avait débuté à 14 ans dans un orchestre de Pammer, lui offre un contrat d'exclusivité avec un pont d'or à la clé. Strauss sort un peu comme était son père, vous savez, qui se tuait à la tâche, et bien lui sort un peu harassé de toutes ses tournées. Autour de l'été 53, il va faire une cure de repos en montagne. Il persuade son frère Joseph de le remplacer pour ne pas abandonner ce public qui est tellement friand de tout ce qu'ils sont capables de donner. Les deux frères vont composer, et là ils travaillent ensemble, hein, ils vont composer la célèbre Pizzicato Polka, et Joseph, hélas, va disparaître prématurément. En 17 ans, il a quand même écrit quelques 300 compositions originales. Le plus jeune frère, c'est Édouard, est donc associé à ce moment-là à l'entreprise familiale, qui est une véritable industrie musicale, hein. Il est chef et compositeur, et il va diriger l'orchestre des années après la mort de Johann. Et ses descendants s'efforceront de perpétuer cette tradition jusqu'à la dissolution de l'entreprise familiale en 1901. C'est Carlos Kleiber, mais oui, qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne dans ce très célèbre Beau Danube bleu de Johann Strauss, fils.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, ce Johann Strauss, fils, avait quelque chose de plus que son père, il faut bien dire. Il était tout à fait séduisant. En août 62, il a épousé une ancienne chanteuse, Henriette Chaloupetki, que tout le monde connaît mieux sous le pseudo de Yeti. Cette de J-E-T-Y, elle avait écrit un jour à son ami Karl Haslinger, qui était son éditeur, un billet qu'elle avait griffonné à la hâte. « Cher Haslinger, vieil imposteur d'imprimeur sans vergogne, pourrais-tu venir chez moi demain matin à 7h afin de me soutenir pour mon mariage une heure plus tard ? Réponds immédiatement, maudit musicien amateur aux doigts tanchés d'encre. » Il faut vous dire que Yeti n'était pas exactement l'épouse modèle qu'on aurait pu imaginer pour un compositeur à la mode. Elle était mère de plusieurs enfants, elle était la maîtresse d'un riche banquier. Il n'empêche que, malgré les ragots et les cancans, le plausch de ce tout Vienne, un peu étonné de la nouvelle, Yeti va se révéler une bonne épouse, à la fois secrétaire, impresario, conseillère artistique. Elle encourage son mari à prendre tout le temps qu'il faut pour la composition et à déléguer le reste, c'est-à-dire notamment la responsabilité de l'orchestre, à ses frères. Et c'est en partie sous son influence que Strauss va composer au cours des années 60 un grand nombre de valses, dont Journaux du matin, La vie d'artiste, Histoire de la forêt viennoise, bien sûr. Et un an après son mariage, le voilà nommé chef d'orchestre des bals de la cour impériale et royale. Autant vous dire que c'est la consécration suprême. Chaque année, il y a deux types de bals à la cour de Vienne. Vous savez, selon que vous appartenez à la première ou deuxième société, à la Erste ou à la Zweite Gesellschaft, vous avez les bals de cour et les bals à la cour. C'est la petite nuance, la petite subtilité. Mais de toute façon, Strauss, lui, ne s'embarrasse pas de subtilité. Il dirige tout ça, il emporte tout le monde dans son tourbillon. C'est la période du carnaval qui est la grande période pour la famille Strauss. En 67 néanmoins, 1867, on peut pas dire que la capitale ait l'esprit à la fête, puisque 67, c'est la suite de 66. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous savez que le 3 juillet 66, les Autrichiens ont dû s'incliner face aux Prussiens à la bataille de Sadova, bien sûr, qui a eu un retentissement considérable en Europe, qui va d'ailleurs nous amener indirectement à la guerre de 70 en France. Et cette année-là, en 67, le bal de la cour est donc remplacé par un simple concert. Johann Strauss doit composer une nouvelle œuvre. Ce sera le fameux Danube bleu que vous venez d'entendre et qui va devenir l'une des musiques les plus célèbres de toute l'Europe, qui sera beaucoup jouée à Paris notamment. Ce modèle de la valse viennoise, en vérité, ce sont cinq valses enchaînées, ce morceau célèbre. Ça devient évidemment l'incontournable du concert du Nouvel An. Il fallait toute l'imagination de Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, pour faire danser les planètes au rythme des trois temps un peu langoureux de ce beau Danube bleu. La valse est devenue, grâce à Johann Strauss fils, elle est devenue, c'est Reynaldo Hahn qui nous le dit, plus libre, plus souple et plus fière. Il, donc Johann, substitue aux longs contours chantants divisés en fragments mesurés, de courts motifs, tantôt caressants, tantôt hachés et nerveux, dont l'ensemble compose une phrase grâce à des artifices de ce genre suggérés tout naturellement par sa riche inspiration. C'est Alexandre Dumas notamment qui ne tarissait pas d'éloges. Il arrivait souvent, dit-il, que ma cavalière et moi-même, dansant sur la musique magique de Strauss, devions nous arrêter pour mieux suivre le déroulement de ce rêve inspiré. Il nous semblait presque sacrilège de permettre à de telles mélodies de servir de prétexte à un plaisir physique. C'est un bel hommage que rend le vieux Dumas au jeune Strauss, qui va faire effectivement ses débuts à Paris à l'occasion de l'Expo universelle celle de 67. L'orchestre est retenu à Vienne, lui, sous la direction des deux frères. Et à Paris, Johann et Yeti vont nouer rapidement des contacts qui vont leur permettre d'obtenir des engagements très prestigieux. La plus somptueuse des réceptions données en marge de l'exposition est la soirée de gala de l'ambassade d'Autriche, donnée par la femme de l'ambassadeur comme il se doit, la célèbre princesse l'actrice Pauline de Metternich, la grande amie de l'impératrice Eugénie. « Johann est l'homme du jour », écrit Yeti. « Il n'y a pas eu des succès comparables ici depuis des années. C'est une œuvre. C'est un extraordinaire triomphe. Les propositions affluent. L'Amérique est déjà en vue. Fabuleux, fabuleux. Ah, quelle excitation au sein de la fête impériale. » Une des propositions que Johann s'empresse d'accepter émane de Londres, puisque le jeune prince de Galles, celui qui un jour deviendra Édouard VII, a été impressionné par la musique comme par la personnalité du prince de la valse. Yeti Strauss, qui connaît bien Londres pour avoir chanté avec l'orchestre de Johann Strauss père en 49 dans la capitale britannique, va se produire pour 10 concerts à Covent Garden, accompagné parfois au piano par son mari. À son répertoire figure des arias de Mozart et de Mendelssohn et des chansons populaires écossaises qui soulèvent l'enthousiasme du public. Voici ce qu'écrit cette fois son mari dans son journal intime. Une fête splendide, telle que je n'en ai jamais connue de ma vie, le plus beau concert de ma carrière. Oh, vive les Anglais du fond du cœur! Strauss va quand même rentrer un jour à Vienne, même s'il est un peu enivré par les succès, par l'euphorie londonien. Il décide de s'inspirer de tout ça pour ses propres compositions et va entamer une nouvelle série de concerts dans la salle des Floralies de l'Association des Jardins de Vienne. Plus tard, en 69, il achète une maison Heitzing, justement, tout près de ce casino Dommeyer qui est un peu devenu le point d'attache de la famille. Il meublera tout ça dans le plus pur style anglais. Il y a une anglophilie, pour ne pas dire une anglomanie, chez les Strauss. En 70, il a 45 ans, Johann Fiss, il est au sommet de cette gloire européenne et c'est là qu'il est donc frappé de deux deuils successifs, sa mère et puis, 6 mois plus tard, donc son frère Joseph, je vous le disais tout à l'heure. La direction de l'orchestre échoit à ce moment-là à Édouard et Johann se sent libre d'accepter de nouvelles invitations à l'étranger. Il va diriger toute une série de concerts à Paris, à Londres, à Budapest et entamer une seconde carrière, celle de compositeur d'opérette. Comme tout le monde, il a entendu et apprécié les opérettes d'Offenbach. Je vous ai dit qu'il était à Paris en 67 au moment du plus grand triomphe d'Offenbach et encouragé par Yeti et par le directeur du Theater an der Wien, eh bien, il va lui aussi s'essayer à l'opérette et il sera le compositeur éternel, inoubliable de la chauve-souris, bien entendu. Avez voué un culte à Herbert von Karajan, vous n'avez pas oublié ce dernier grand concert du Nouvel An qui était dirigé par le maître dans son corset. Vous savez, il était déjà très malade. On est en 1987. C'est bien sûr le Philharmonique de Vienne qui interprétait cette ouverture de la chauve-souris dit Feldermaus.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
74, hein, la chauve-souris sur un livret inspiré d'un vaudeville français, le réveillon de Meyack et Halévy, et qui est devenu le symbole de la tradition viennoise. L'opérette viennoise ne va du reste jamais renier ses origines, puisque la majorité de ses arguments sont tirés de pièces françaises, sous l'influence toujours d'Offenbach, bien sûr. Entre-temps, Strauss a quand même écrit 100 viennois, une autre valse qui va devenir immortelle. Yeti a plus de 60 ans maintenant. Elle n'a plus le même dynamisme qu'autrefois et elle aime de moins en moins sortir. Elle va mourir d'apoplexie en avril 78, ce qui bouleverse complètement Johann, évidemment. Ce qui ne l'empêche pas de se remarier 2 mois plus tard avec Angelika Dietrich, Lily. Une union désastreuse, en vérité, qui, 4 ans plus tard, s'achèvera par une séparation. Strauss veut se remarier une troisième fois avec une jeune veuve, Adèle Deutsch, qui est aussi la fille de son conseiller financier. Pour épouser Adèle, qui est juive, Strauss, qui était catholique, doit renoncer à sa citoyenneté autrichienne. Il adopte celle du duché de Saxe-Cobourg-Gotha en 1886, se convertit au protestantisme et obtient ainsi le divorce d'avec sa seconde épouse, Angélica.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les dernières années de la vie de Strauss avec Adèle et la fille de celle-ci, Alice, apporte au musicien la paix et le bonheur dont avait besoin son tempérament agité. Après la chauve-souris, il y a eu le baron de Zigan, il y a eu Voix du printemps, des valses de concert magnifiques. Et puis bien sûr, en 1889, cette valse de l'empereur qui lui vaut l'admiration de tous les compositeurs de l'époque, y compris Wagner et Brahms et Liszt, tout le monde a été ébloui. Ce sont des œuvre qui, en quelque sorte, mélange de façon assez éblouissante et d'une très grande efficacité le rêve et la réalité. Elles sont à l'image de cet empire austro-hongrois finissant, nous dit Jérémy Bigori. Il a bien raison, c'est vrai qu'il y a une sorte d'adéquation entre cette musique et la politique de l'époque et l'esprit viennois et ce que Vienne nous a légué. Je pense que je ne suis pas le seul à penser à Vienne, à vivre par la pensée à Vienne dès qu'arrivent les fêtes de fin d'année.
Vous écoutez Radio Classique.
Il est entré dans ce studio, il est prêt, tout est bien installé autour de lui. Et il est entré avec ce petit pas de valse qu'il accomplit mieux que quiconque, c'est Christian Morin, bien sûr.
Ça me met de bonne humeur de rentrer comme ça sur cette musique. Merci à Jérémy Bigori qui connaît bien cette musique sur le bout des doigts. Pas celle-ci en particulier, que celle-ci. Toutes les musiques. Et est-ce qu'on va envoyer valser l'Argentine dimanche?
Il faut l'espérer.
Que je me pose justement à propos de Strauss. Cet après-midi, vous abordez un cas intéressant quand même de la littérature théâtrale et de la littérature tout court et de l'admiration de l'art en général, Monsieur Guitry.
Ah oui. Alors là, Guitry dans la vision qu'il avait de l'histoire, comment il nous entraînait
tout à fait.
À sa manière dans l'histoire.
Bah, il nous a emmené
quand même fantaisie.
Avec Si Versailles m'était compté,
notamment
entre autres Paris, etc. Je vais écouter avec attention, comme je le fais chaque jour dans ces rediffusions que nous écoutons à 14h, et puis nous nous retrouvons dès lundi avant d'aborder la dernière semaine des derniers 10 jours à peu près de cette fin d'année qui se termine dans le froid. Couvrez-vous bien, vous avez un pull gris qui va très très bien à votre teint ce matin, avec une veste grise, arborant un blue jean, c'est la tenue habituelle maintenant que nous avons pour
du
la radio,
vendredi.
Bien sûr, la tenue du vendredi, sur la perspective du week-end. Merci mon cher Franck, passez une excellente journée.
Bonne journée à vous.